Donc, ils ne parlaient plus le même langage, ils se sont battus et les rebelles ont perdu du terrain, mais ne sont revenus qu'à la faveur de Serval. Donc, du coup, ils se sont installés à Kidal, nous y sommes et nous restons. Et l'armée malienne, donc, n'a pas compris, et jusqu'à présent, le gouvernement ne comprend pas et pourquoi la France maintient cette situation sous prétexte que les soldats maliens sont revanchards, des criminels potentiels. Si on les laisse entrer à Kidal, ils vont exterminer la communauté Touareg. L'un des objectifs de cette guerre, c'était l'intégrité territoriale. Donc le Mali considère que l'État central n'exerce pas sa souveraineté sur Kidal.
Je serais un peu plus nuancé, Kaminata, parce que je pense que la déception, elle est double. Elle est celle que vous dites du côté de Bamako, donc de la majorité du peuple malien, mais elle existe aussi du côté Touareg, où un certain nombre de dirigeants trouvent que la France, qui était quand même l'allié traditionnel des Touareg, les services secrets français, l'armée française, depuis toujours, ont une espèce de penchant pour la cause Touareg. Mais les Touareg, aujourd'hui, trouvent que les politiques françaises n'en font pas assez auprès du pouvoir de Bamako, pour imposer une forme d'autonomie au Nord-Mali, à leur région. Donc, la France, aujourd'hui, elle ne recueille pas franchement les fruits de ce qu'elle présente comme une victoire, parce qu'en termes politiques, elle a fabriqué que des mécontents d'un côté comme de l'autre. Et il y a quand même un événement qui est quand même assez cocasse, c'est que tout récemment, c'est en Algérie que le président malien élu, Ibeka, va rencontrer les groupes armés Touareg pour tenter de se parler, pour tenter une médiation. Or ça, depuis que l'opération Serval est terminée, il fallait que la France s'attelle à cette tâche avec d'autres alliés, qu'ils soient européens, africains, etc. Mais elle n'a pas bougé. La France est paralysée complètement sur le plan diplomatique dans toute cette intervention. Et elle pense que parce qu'elle a réussi à refouler hors du Nord Mali quelques milliers de djihadistes, elle a réglé tout le problème de ce pays.
Aha, là c'est qui moi ça est, Pantama ba.
On est avec Aminata Traoré qui publie avec Boubacar Boris Diop La gloire des imposteurs, Lettres sur le Mali et l'Afrique, et puis avec Nicolas Beau qui publie Papa Hollande au Mali. Aminata.
Oui, moi mon souci encore une fois c'est l'économie quoi, dans tout ça. Et j'ai l'impression que la véritable paralysie vient du fait que cette région du Nord vivait essentiellement de l'artisanat.
Et
du tourisme. Donc, nous n'avons plus de touristes pratiquement depuis 2008 déjà, quand on a inscrit le Mali sur la liste des pays à risque, bien avant l'intervention. Donc, on prétend qu'on va émerger, c'est ça qu'on raconte à chaque pays africain. Donc, je ne vois pas comment des investisseurs maliens ou non maliens vont aller dans ces régions-là et qui vont cohabiter avec les militaires. Moi, la militarisation me pose un sérieux problème. Je pense que vraiment, lieu et place de ces milliers de soldats qui ne sont pas des producteurs de richesses, j'aurais tellement aimé que ce soit des enseignants, des médecins, des touristes. On a vraiment besoin de tisser d'autres rapports, quoi. Mais il faut dire que derrière tout ça aussi, il y a tout un complexe militaro-industriel. Il faut que les armes se vendent. L'Europe s'est jurée de ne plus jamais ça, c'est-à-dire on ne s'entretue plus, mais on va vendre des armes aux autres pour qu'ils s'entretuent. En plus des armées, et tout l'armada déployée par les djihadistes, les narcotrafiquants, tout le monde, il y a des armes pour tout le monde. Donc c'est ça la vraie question aujourd'hui. Quel désarmement, quelle paix, quel changement? Est-ce qu'on peut continuer à fermer les yeux sur les conséquences dramatiques